Vous écoutez
RMC.
Vendredi 23 septembre,
l'info sur RMC.
Il est tout pile 8h, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Excellent réveil, très belle matinée à vous tous. Le journal Marguerite Dumont, bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les référendums d'annexion russes ont débuté ce matin en Ukraine avec une organisation très bancale, vous le verrez. Quand la réforme des retraites sera-t-elle lancée? Emmanuel Macron déjeune aujourd'hui avec sa première ministre, Elisabeth Borne. Et puis, l'adieu de Roger Federer au tennis, c'est aujourd'hui. Pour l'occasion, le champion s'offre un double avec son plus grand rival, Raphaël Nadal. On sera à la Laver Cup de Londres.
Les référendums d'annexion à la Russie ont débuté ce matin en Ukraine.
Premier vote dans 4 régions contrôlées par les pro-russes. Référendum bien loin des règles de base de la démocratie. Benoît Ballet, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC et BFM TV dans la région de Donetsk. Comment va se dérouler le scrutin ?
Les bulletins de vote sont différents selon les régions qui sont soumises à ce référendum à partir d'aujourd'hui dans les régions autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. L'intitulé est le suivant. Êtes-vous favorable à ce que votre région devienne un membre à part entière de la Fédération de Russie? L'intitulé qui est légèrement plus long et plus complexe dans les régions de Kherson et de Zaporijja. Êtes-vous favorable à une sécession de votre région de l'Ukraine et ensuite que votre région devienne un membre à part entière de la Fédération de Russie? Deux réponses à chaque fois possibles. Oui ou non. Les opérations de votes qui vont être sous forme de porte-à-porte dans les premiers jours et jusqu'à lundi pour des raisons de sécurité, nous disent les médias russes. La seule et dernière journée de mardi permettra aux habitants de venir voter physiquement en personne dans les bureaux de vote. Des bureaux de vote par centaines dans les différentes régions ainsi qu'en Russie pour les habitants de ces régions qui s'y seraient réfugiés. Les médias russes qui estiment à plus de 3 millions le nombre potentiel de votants et l'issue de ce vote laisse peu de place au doute puisque selon un sondage réalisé par un institut russe il y a 4 jours, plus de 80% des personnes interrogées se disent en faveur de l'annexion de ces territoires par la Russie.
Et en Russie, justement, sur le terrain, la mobilisation des réservistes a bel et bien débuté. Le président ukrainien s'est adressé à ces hommes fuyés, leur dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée hier. L'Allemagne, de son côté, s'est dit prête à accueillir les déserteurs. Le compte Twitter de Mathias Pogba s'est réactivé très tôt ce matin. Plusieurs messages et des vidéos ont été diffusés alors que l'aîné de la fratrie est en détention provisoire dans cette affaire de tentative d'extorsion dont se dit victime son frère Paul dans ses vidéos. Mathias confirme que son frère a fait appel à un marabout pour gagner la Coupe du Monde 2018 et pour agir contre Kylian Mbappé lors d'un match de Ligue des Champions entre Paris et Manchester United. On vous reparle ce matin des crèches du groupe Babylou à Lyon. Il y a 3 mois, un bébé décédé empoisonné par une employée dans un autre établissement du groupe. Cette fois-ci, un incendie s'est déclaré mardi alors que les employés se trouvaient dehors et 6 enfants à l'intérieur. Heureusement, pas de blessés, mais des parents complètement stupéfaits. Témoignage d'une mère de famille avec Vincent Chevalier pour RMC.
Sa fille fréquente cette crèche depuis plusieurs mois. Mardi, elle reçoit un coup de téléphone.
La police qui m'a appelée et qui m'a demandé de venir récupérer mon enfant en me prévenant qu'il n'y avait rien de grave mais qu'il fallait que je vienne.
Sur place, elle apprend le déroulé des événements, rien de rassurant.
On s'inquiète parce qu'on se demande enfin qu'est-ce qui se passe dans cette crèche. En fait, on ne comprend pas qu'il y ait autant d'inadvertance.
C'est la première fois qu'il se passe quelque chose de grave, mais des parents ont déjà interpellé la direction.
Depuis quelques mois, c'est compliqué. Il y avait beaucoup de turnover, des gens qu'on on voit une journée, quand on sait à peine le prénom. Il y a eu une période très compliquée où j'ai honnêtement failli partir.
Suite à cet incident, cette maman a aussi été choquée par le double discours de l'entreprise sur place.
On me dit que les référentes sont bien conscientes qu'elles ont fait une erreur, qu'elles s'en mordent les doigts.
Mais dans le communiqué officiel,
c'est la faute à pas de chance. Ils sont dans la réglementation. Au lieu de prendre leurs responsabilités de manière adéquate, eh ben en fait, on a l'impression d'être rien pour eux. Ils minimisent complètement ce qui s'est passé.
L'établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pendant 3 mois, le temps de l'enquête, illégitime selon People and Baby, qui a déposé un recours.
Il est 8h04 sur RMC. L'avenir de la réforme des retraites se joue aujourd'hui à déjeuner.
À table, Emmanuel Macron et sa première ministre. Au menu, le calendrier, la méthode. Le président de la République prône la rapidité pour cette réforme nécessaire, dit-il. Elisabeth Borne est plus réticente, Pierrick Bonneau.
Elisabeth Borne pousse pour la concertation. C'est une prudente de nature, assure un parlementaire bien informé. Les passages en force, c'est pas son truc. Si la Première ministre semble d'accord avec le Président sur la nécessité de réformer rapidement le système des retraites, elle insiste ces derniers jours sur sa volonté de débat et de dialogue. Alors, quelle méthode sera choisie par l'exécutif ? Quand on lui parle retraite, Elisabeth Borne se fige un vrai masque de cire, raconte un sénateur qui l'a vu en milieu de semaine. Moi, je crois surtout qu'elle attend la feuille de route du patron, ajoute un conseiller, car c'est bien de l'Élysée que la décision sera prise. Il n'y a aucun rapport de force sur ce sujet, elle confie un proche d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne ne s'opposera pas à la décision du chef de l'État sur une question si sensible. Elle compte bien rester à Matignon.
Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Et ce bilan que nous donne ce matin la gendarmerie nationale qui concerne les feux qui se sont multipliés cet été en France. Romain Hougue, ce chiffre, 48 personnes soupçonnées d'avoir allumé un incendie ont été interpellées.
Oui, et 12 d'entre elles ont déjà été condamnées. La plus lourde peine jusqu'ici, elle a été prononcée contre un jeune homme auteur d'une série d'incendies en Gironde cet été. Il a été condamné à 2 ans de prison. Il y a aussi parmi les personnes interpellées des mineurs. Certains ont déjà écopé de mesures éducatives comme ces deux adolescents qui avaient mis le feu à 5 hectares de végétation en Bretagne dans le Morbihan avec des feux d'artifice. La porte-parole de la gendarmerie parle de profils très variés, des jeunes comme des retraités. Tous les milieux sociaux sont représentés avec toutefois une majorité d'hommes. De nombreuses enquêtes sont toujours en cours et des expertises médicales doivent permettre de distinguer les pyromanes qui allument des feux par pulsion des incendiaires dont l'acte répond à un mobile précis.
Merci beaucoup Romain Hougue. La France qui a été marquée par ces incendies, la France qui a brûlé, et dans ce contexte, il y a des prises de conscience évidemment. Alors celle des jeunes, ils étaient déjà assez au courant de ces problématiques, mais là ils vont manifester pour le climat aujourd'hui, et pour marquer le coup, ils sont appelés à ne pas aller en cours. Des rassemblements sont prévus à Paris, Toulouse, Montpellier, La Rochelle, pour dénoncer l'absence de politique en la matière. Camille, par exemple, est très engagée.
La grève, c'est utile parce qu'on montre qu'on y va, on montre qu'on est déterminé, on montre qu'on va dans la rue, qu'on quitte les salles de classe, qui nous coûtent parce que nous, on est des étudiants, des élèves, on aime aller étudier, c'est pas un problème ça. L'idée, c'est qu'on se force à quitter les salles de classe pour enfin exiger et obtenir quelque chose. On y va, on a espoir, sinon on n'irait pas. Avec cet espoir-là, on a la force de sortir et de montrer nos revendications.
Camille, donc, qui n'ira pas en cours aujourd'hui, ce vendredi. Le sport sur RMC, la France se rassure à 2 mois de la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face à l'Autriche grâce au tandem Giroud-Bappé. Prochain match en Ligue des Nations, dimanche face au Danemark. Et sortez les Kleenex. Roger Federer disputera aujourd'hui le dernier match de sa carrière. Un double aux côtés de son meilleur adversaire, Rafael Nadal, à la Laver Cup de Londres, Eric Salio.
Oui, pour ses adieux, Roger Federer a soigné son casting. Hier après-midi, le Suisse a partagé le cours de l'eau de Arena avec Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic. Les fans n'ont pas boudé leur plaisir et ce soir, la dernière danse s'annonce émouvante.
Je suis sûr que ça sera formidable, mais dur.
Les interrogations sont autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, mais il aura son vieil ami Rafael Nadal à ses côtés. Malgré la grossesse difficile de son épouse, l'Espagnol a fait le voyage à Londres.
Of course, I am...
Je suis reconnaissant de jouer avec lui. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et faire en sorte que ce moment soit encore plus spécial.
Aux abords de l'O2 Arena, on a retrouvé l'une de ses plus grandes fans suisses, Doris, qui avait acheté ses billets dès février. Elle est fière d'accompagner son héros jusqu'au bout.
Triste, bah oui, d'une façon que oui. Mais on a vu son entraînement aujourd'hui. Il est tout sourire. Bah si le genou ne veut plus, il ne veut plus quoi.
Finalement, Roger Federer, ce sont ses fans qui en parlent le mieux.
Eric Salio qui nous fera vivre ce moment à Londres pour RMC Sport.
C'était le journal de Marguerite Dumont. Notez mon invité politique ce matin à 8h30. Ce sera Jordan Bardella qui est président par intérim du RN et qui compte bien le rester puisqu'il est candidat à sa propre succession, candidat à la présidence du Rassemblement National. Ça se passera donc à 8h30 sur RMC et BFM TV, les 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Abonnez-vous matin.
Le parti pris, comme chaque matin. Dans un instant, je vous attends au 32-16. Faut-il imposer des quotas aux non-résidents dans les stations balnéaires prisées des franciliens? Haro sur ceux qui arrivent avec des forts pouvoirs d'achat, principalement parisiens ou de la région parisienne. Eh bien, pour le maire des Sables-d'Olonne, la réponse, c'est qu'il faut les limiter et imposer des quotas. Son parti pris, c'est dans une minute. Il sera en direct sur RMC. Avec vous tous au 32-16, vous habitez peut-être ces régions où vous vous sentez un peu envahis, ou alors, à l'inverse, vous faites partie de ceux qui achètent ou aimeraient acheter une résidence secondaire. Venez donc débattre avec nous, 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 sur RMC.
Le parti pris.
Et c'est le parti pris, évidemment, comme chaque jour après le journal de 8h. Et cette question ce matin, Haro, sur les résidences secondaires. Les habitants locaux se mobilisent contre l'envahisseur, le plus souvent parisien ou de la région parisienne. Ça se passe en Bretagne, en Vendée, sur la côte atlantique, dans le sud-est. L'immobilier qui flambe et les inégalités de revenus aussi. Et on en parle avec vous tous qui nous appelez au 32-16. Et avec vous, Yannick Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire des Sables d'Olonne en Vendée. On apprend par une étude de l'INSEE publiée hier que de plus en plus de Franciliens quittent bien l'Île-de-France pour tenter de s'installer ailleurs. Alors ils quittent l'Île-de-France aussi pour des raisons principalement immobilières, avec des prix de l'immobilier en Île-de-France qui ont flambé et qui leur rendent la plupart du temps impossible d'acheter. Mais en revanche, ils viennent faire monter les prix chez vous, notamment aux Sables d'Olonne, où ils arrivent avec un niveau de vie plus élevé. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour tenter de protéger en quelque sorte les habitants locaux qui n'ont plus les moyens de se loger ?
Alors tout d'abord, je comprends vraiment que les Franciliens cherchent à venir habiter sur le littoral atlantique et au Sables-d'Olonne en particulier, évidemment.
Moi aussi je les comprends, je peux vous dire.
quand on voit
votre coin.
Elle n'est pas tout à fait comparable, effectivement. Non, notre sujet, c'est pas tellement que des personnes de grandes villes viennent habiter chez nous à l'année, parce que ça fait aussi vivre la ville et les Sables d'Olonne, comme toutes les stations balnéaires, ont des traditions d'accueil, que ce soit en résidence secondaire ou en résidence principale. Notre sujet à nous, c'est plutôt l'asphyxie du marché de la location à l'année, de la difficulté pour les gens d'habiter à l'année aux Sables d'Olonne et notamment de louer à l'année du fait de la multiplication des locations touristique de courte durée, type Airbnb. Cette explosion-là, si vous voulez, des logements meublés touristiques de courte durée qui assèche le marché de la location à l'année et qui empêche les habitants de vivre à l'année dans nos centres-villes de stations balnéaires.
Et qu'est-ce que vous proposez alors ?
Alors pour limiter l'impact et donc le développement un peu effréné de ces locations touristiques, on a instauré des quotas de location touristique par quartier. Parce que dans le centre-ville des Sables d'Olonne, par exemple, qui correspond à l'endroit où se trouve la grande plage, donc la partie la plus attractive de la ville pour les touristes, évidemment, on avait, il y a 30 ans, 75% de résidences principales. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On a 75% de résidences secondaires et donc de locations touristiques. Et donc, il devient très difficile pour les habitants des Sables d'Olonne et pour les Vendéens d'habiter dans le centre des Sables, ce qui pose des problèmes important pour la vie des écoles, pour la vie du quartier, pour les emplois des commerces qui ont du mal à recruter du personnel qui doivent habiter toujours plus loin. Donc nous, notre sujet, c'est plutôt d'éviter de dévitaliser nos villes par de l'hyper-touristication avec le phénomène Airbnb et une hyper-profitabilité en réalité. Parce que ce qui se passe, c'est que l'État encourage la location touristique et décourage la location à l'année parce que les régimes fiscaux ne sont pas les mêmes et c'est beaucoup plus avantageux pour un propriétaire sur le littoral français de louer en meublé touristique.
Je vous propose justement, monsieur le maire, qu'on accueille Nando qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Nando.
Bonjour.
Si je comprends bien, vous faites partie de la catégorie donc des Franciliens d'Île-de-France. Quand vous entendez ces habitants de coins plus apaisés où pas mal de Franciliens, de Parisiens essayent de partir, vous Nando, ça vous fait rêver ? Vous vous dites j'irai bien ?
Ah oui, pourquoi pas. Accéder à la propriété maintenant en région parisienne, c'est compliqué.
Ouais.
Oui, on peut être en location, en agglomération et avoir une maison à la campagne. Tout comme les provinciaux, quand ils viennent chercher du travail dans les grandes agglomérations, ça sature aussi le marché. Il y a peut-être un marché même qui s'équilibre entre ceux qui quittent la province pour venir chercher du travail et ceux qui cherchent des agglomérations, qui cherchent un peu de calme pour aller en province, bah, je pense que ça peut s'équilibrer. Alors, je comprends que les locaux ils sont peut-être réticents, mais d'un autre côté, ça fait vivre l'économie locale. Les boulangeries, les restaurants, quand on passe là-bas des week-ends, ça fait tourner le commerce. Il faut trouver les avantages et les inconvénients des deux côtés. Hein.
Alors justement, monsieur le maire, Yannick Moreau, vous qui êtes maire des Sables-d'Olonne, cet argument, depuis ce matin, on entend à la fois des gens, il y en a eu notamment Sylvie tout à l'heure qui nous appelait de votre ville et qui témoignait vraiment de cette difficulté. Elle disait, moi je bosse là toute l'année et je n'arrive pas à me loger à moins de 30 km du centre, on l'entend bien. Mais on a aussi d'autres auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire, bah oui, mais moi, certes j'ai une résidence secondaire, mais je fais vivre aussi tout le commerce local. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment trouver l'équilibre?
C'est vraiment... Exactement, vous avez prononcé le bon mot, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si on arrive à conjuguer l'habitat permanent et l'habitat secondaire, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est le déséquilibre vers toujours plus de secondaire et de location touristique, surtout de location touristique, en fait c'est surtout ça le problème, au détriment de l'habitat permanent. Et donc, au Sables-d'Olonne, si vous voulez, par exemple, la ville a été obligée de voter un plan pour donner une prime aux habitants qui sont propriétaires d'un logement au Sables-d'Olonne, qui l'exploitaient sous forme de location touristique et qui accepteraient de le louer à l'année. C'est-à-dire que depuis le début de l'année 2023...
C'est-à-dire pour pas que ce soit des locations juste saisonnières, vous-même, exactement, vous mettez la main à la pâte en disant « bah non, en fait, il faut que les habitants puissent s'y loger aussi ».
Exactement. Et depuis le début de l'année 2023, il y a 100 logements, donc 100 contrats qui ont été passés avec des propriétaires, qui ont permis de remettre sur le marché de la location à l'année des appartements et des maisons au Sables-d'Olonne. Donc ce sont 100 familles qui peuvent habiter à l'année au Sables-d'Olonne. Et sans l'intervention de la ville, en réalité, on n'aurait pas l'encouragement suffisant pour permettre d'élargir le marché de la location à l'année.
Merci Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, d'avoir donc exposé votre parti pris ce matin avec cette difficulté. Trouver les équilibre en effet entre ceux qui habitent là à l'année et ceux qui débarquent, et notamment les locations saisonnières. Il est 8h19 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint pour passer l'actualité au peigne fin. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour à tous. Tout le monde va bien?
Oui.
Alors ce matin, j'ai fait ma petite revue de presse. Je suis passé au kiosque avant de venir. Ah. Qu'est-ce que j'ai vu, Apolline? Mais on fait la une de la presse d'information. Oh. Regardez, magnifique couverture TV Magazine. Une longue interview titrée « Je suis féministe, mais pas revancharde », ce qu'on peut traduire par « Je suis pour l'égalité des droits, mais je suis pas une casse-couille à cheveux bleus ». Un entretien dans lequel le magazine... C'est pas faux, hein. En tout cas, vous avez des magnifiques cheveux, pas bleus. Un entretien dans lequel le magazine se demande si Apolline est aussi autoritaire qu'elle le paraît en interview. Pas du tout, chers auditeurs. Apolline de Malherbe est une déconneuse née. Tenez, imaginez-la en karaoké, bourrée, hurlant du Céline Dion, les talons hauts à la main. J'irai où tu iras, mon père. Vous voyez, l'image marche bien.
Vous avez des vidéos.
Marche pas mal. Non, mais je propose qu'on s'en fasse un, peut-être à l'occasion, un petit karaoké, Apolline, hein, pendant nos soirées à 14h30. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette interview? Ah oui, qu'on boit des bières avec Charles et Manu en sortie de studio à 9h le matin. Et on ne m'invite pas.
Fallait passer un certain nombre de fois. Bah, on y va, là.
Ah, bien, alors,
allez, okay. C'est dans une demi-heure.
On fait ça, alors. Je vous suis après Jordan Bardella pour
après Jordan Bardella.
Un peu.
On s'en met un derrière le costume.
Deux sortes de pressions différentes dans la même matinée. Alors, en kiosque également, vous trouvez Charles Magnin en couverture de la Gazette du Jonglage.
C'est vrai.
Qui propose un magnifique article, les 10 feux rouges les plus tendances pour jongler pieds nus.
Des bons plans.
À ne pas louper les bons spots du Sud.
Alors, il y a une nouvelle étonnante ce matin, Arnaud, dans le conflit russo-ukrainien. Alain Delon.
Oui.
Alain Delon va interviewer aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec des journalistes.
Oui, car Alain Delon, sublime, magnifique, toujours aussi magnifique, comme dirait notre ami Dominique Besnard, est avant tout un citoyen engagé. Et je trouve ça bien, on devrait faire ça à chaque fois, l'acteur. Maintenant, Monsieur Poutine, une question de Danny Boone. Bonjour, Monsieur Poutine, elle n'est pas un peu longue la guerre là? Voilà, pour l'interview du 14 juillet, tu mets Macron en face de Joe Star. À mon avis, ça rigole moins. Il faut trouver le bon acteur pour le bon politique. Hein. Gérard Depardieu, Jean Lassalle. Harry Habitant, Damien Abad.
Bah, je suis désolé, je les mets en parallèle, hein, c'est comme ça. Éric Ciotti, Mimi Mati. On peut en trouver plein. Oh. Mais pensez-y peut-être pour vos interviews à l'adjoint.
Je vais y penser. Arnaud, les pédiatres alertent sur l'augmentation des blessures causées par les trampolines.
Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, trampoline de Malherbe. Mais il y a de plus en plus de trampolines. Un bon jeu de mots.
Oui, je prends.
Il achète, Charles. Donc revenons à un sujet très sérieux, très sérieux. Il y a de plus en plus de trampolines dans les jardins et on ignore souvent les règles de sécurité. Par exemple, jamais plus d'une personne sur un trampoline. Si vous mettez un enfant sur votre trampoline et qu'après Emmanuel Le Chypre dit hey, « Eh, moi aussi, je veux jouer !» Il saute et votre gamin, c'est Thomas Pesquet. Vous ne le revoyez plus. Il part en orbite. Donc, ça fait augmenter le nombre d'accidents. Les fractures augmentent. Les enfants d'aujourd'hui, de toute façon, sont plus fragiles. Les enfants, c'est comme les lave-linges. Ceux des années 80 étaient quand même plus solides. Nous, on est un peu de la même génération. Il y avait de l'amiante dans toutes nos classes, par exemple. On a respiré là-dedans, mais à l'aise, comme Tony Montana dans un saladier de cocaïne. On allait sur des aires de jeu avec des toboggans en métal. Tu glissais pas, mais tu te brûlais au deuxième degré dès que c'était le printemps. Il y avait des tourniquets, c'était des centrifugeuses de la NASA. Tu finissais éjecté la gueule dans le sable au milieu des mégots. On faisait de la balancelle à deux, vous savez, des trucs comme ça, là, sur une planche ou un rondin de bois à chaque extrémité, ça te tapait le cul, tu te retrouvais avec une scoliose en deux minutes, tes vertèbres, c'était des Pringles, et ça a castré combien de gamins de l'époque, ce truc, ces rondins-là. C'est pas les perturbateurs endocriniens qui ont stérilisé notre génération, c'était machin. Et malgré tout, vous savez quoi, on est vivant. Il faut s'endurcir, les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Et maintenant, on finit en beauté, parce que je vous emmène à Saint-Étienne.
C'est l'info du jour. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, qui s'est donc mis en retrait de la métropole stéphanoise. On rappelle qu'il est impliqué dans un chantage à la sextape gay sur son adjoint.
Quelle saga. Saint-Étienne, ton univers impitoyable. C'est un épisode par jour. La pression devenait de plus en plus forte sur Gaël Perdriau. Elle s'accentue. Certains disent même qu'il risque la prison pour ce qu'il a fait. Remarque, là-bas, il va pouvoir en tourner des sextapes homosexuels. Alors, peut-être plus en tant qu'acteur qu'en tant qu'organisateur, mais bon. En tout cas, c'est un début de victoire pour Gilles Artigue, qui doit être extrêmement soulagé. On va l'appeler. Allô, bonjour. C'est Madame de Malherbe, c'est ça? J'attendais votre appel. C'est donc Gilles Artigue à l'appareil. Je présume que vous appelez pour avoir mon sentiment sur cette première étape vers la victoire. Écoutez, c'est un soulagement. Je me sens... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Non, les gars, rentrez chez vous. Coupez la chaîne Ifi, là. J'ai dit que c'était pas la peine de fêter. On a eu des bons moments ensemble, mais maintenant c'est fini. C'était juste une fois pour voir, pour rigoler. Allez, tout le monde rentre chez soi. Est-ce que cette saga sera terminée un jour? On verra la semaine prochaine. On ne sait pas. Allez, je file. Moi, j'ai un train pour Bordeaux. Je vous laisse. Je pars jouer. À lundi.
Excellent week-end, cher Arnaud. À lundi. Et donc, le prochain épisode de cette véritable saga. Il est 8h25. Retour à la politique. Enfin, à une autre forme de politique. Dans un instant, mon invité, c'est Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National. Il compte bien rester président du RN. Il est candidat à sa propre succession et ça se passe dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.